signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Pour justifier ce qui se passe en Ukraine, Vladimir Poutine a fait appel à l'histoire. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée, a-t-il déclaré notamment dans son discours du 24 février dernier. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Pour Poutine, la mémoire du passé est donc nécessaire au peuple pour retrouver confiance en eux, dignité et volonté de se battre. C'est cette mémoire qui a été éradiquée par la mondialisation des années 90 et 2000, et c'est en son nom qu'il revendique aujourd'hui la Crimée comme le lieu de l'antique Chersonèse, où le prince Vladimir a été baptisé en 988, et l'Ukraine, dans laquelle il voit le berceau historique, culturel et politique de la Russie actuelle. Poutine n'est pas le seul à se réclamer de l'histoire et tout se passe en fait comme si après des décennies de mondialisation et d'idéologie du progrès, la nostalgie pour les passions et l'héroïsme envahissait à nouveau le monde. Mais s'agit-il d'un passé réel ou d'un passé mythifié au risque de nous emporter tous dans la catastrophe ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez écrit beaucoup de livres, dont l'Atlas des frontières et en 2019 La revanche de l'histoire, comment le passé change le monde, qui a eu le prix Vauban en 2011. Et tout récemment dans la revue Continent, Le viol de l'Ukraine, un article sur la situation actuelle. Marlène Laruelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université George Washington, vous êtes directrice de l'Institut pour les études européennes, russes et eurasiennes. Vous avez écrit « La Russie entre peur et défi », « Le rouge et le noir, extrême droite et nationalisme en Russie », « La quête d'une identité impériale », « Le néo-eurasisme dans la Russie » et tout récemment un article qui sort en ce moment aux États-Unis pour décrypter les discours de Vladimir Poutine. Et Hélène Carrère-Dancos, enfin bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes académicienne, vous avez écrit beaucoup de livres, dont Alexandra Kollontai, La Valkyrie de la Révolution, La Russie et la France de Pierre le Grand à Lénine. Et c'est par vous que je vais commencer parce que la situation semble avoir surpris tout le monde. Personne apparemment ne s'attendait à cette invasion d'Ukraine, y compris vous, puisque au début février encore au point, vous affirmiez que Poutine n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine car la Russie y perdrait beaucoup.
Exactement. Je pensais qu'il avait le sens de son intérêt personnel et je dois dire que j'ai été très surprise qu'il l'ignore à ce point, car cette invasion est pour lui une catastrophe. Enfin, à terme, ça se termina très mal pour lui. Mm-hmm. C'est sa propre position qui est en cause.
Pourquoi une catastrophe ?
C'est une catastrophe d'abord parce que je dirais qu'il a redressé l'OTAN, il a donné à l'OTAN une signification, je dirais une vitalité et un prestige que l'OTAN n'avait plus. Ça, c'est déjà un échec considérable. Deuxièmement, s'attaquer à l'Ukraine, c'est véritablement frapper au cœur les Russes. Tous les Russes sont apparents en Ukraine. Enfin, les Russes et les Ukrainiens sont apparentés totalement. Et faire la guerre à l'Ukraine, c'est tout autre chose que de la faire à l'Afghanistan ou même que de la faire à la Tchétchénie. Là, ça ne peut pas être populaire en Russie. Mmh. Et quand les Russes verront revenir le cercueil d'un de leurs enfants tué par son cousin, ça va être intolérable pour eux. Et puis enfin, je dirais que, comme de toute façon c'est une aventure qui... Il y aura des dégâts collatéraux pour tout le monde. L'Ukraine va payer un prix très lourd, je le crains, malheureusement. Pour Poutine, ça ne sera pas un succès éclatant. Mmh. Et il est clair que tout de même, il y a 20 ans qu'il est au pouvoir, la société russe... Maintenant, il y a une nouvelle société, il y a une nouvelle génération. Ça peut accélérer la fin de Poutine. Ça peut rendre beaucoup plus, je dirais, visible la nécessité de changer de direction.
Marlène Arruel, sur le fait que cette situation va nuire au bout du compte à Poutine.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le régime joue sa propre survie sur le long terme. La population est contre la guerre. Il n'y aura pas de victoire suffisante pour justifier ce qui s'est passé. Et il y a toujours un l'ombre nucléaire qui reste là. Et la Russie l'a mentionné elle-même. Donc on risque d'arriver à un moment à des situations extrêmement difficiles où la Russie va se retrouver elle-même face à ce qu'elle a lancé. Donc je pense qu'en effet, là, il y a eu une prise de décision qui a probablement été extrêmement difficile à faire du côté russe. Mais je voudrais soutenir ce que disait Madame Carrère-Dancausse dans le sens où je pense que la Russie elle-même sait que c'est la plus mauvaise option qu'elle a prise et que pendant longtemps, elle a espéré ne pas avoir à la prendre. Et puis, il y a eu un moment ou un autre, il y a la semaine dernière, où il a été décidé par probablement un tout petit groupe de personnes autour de Poutine qu'ils avaient à intervenir, et c'est là où en effet il y a eu un tournant un tournant historique qui risque de coûter cher à tout le monde, y compris à la Russie.
Bruno Tertrais.
Oui, écoutez, face à deux excellents experts de la Russie, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, la question, c'est plutôt de savoir si c'est le risque, c'est la fin de Poutine ou la fin du régime. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Est-ce que M. Poutine sera, comme on dit parfois, débranché par son premier cercle, voyant que pour les oligarques et les Siloviki, les hommes des services de sécurité, le risque est trop grand pour eux et le risque est trop grand pour le régime? Ou est-ce que ça débouchera sur quelque chose de plus profond dans la société russe, une mise en cause de certains des fondements de ce sur quoi cette société moderne a été reconstruite après 1990. Pour moi, c'est ça la véritable interrogation. Mais il est sans doute un petit peu trop tôt quand même pour dire que c'est la fin de Poutine, mais c'est certainement un scénario.
On dit que la pandémie a joué un rôle indirect dans cette prise de décision, notamment dans l'isolement progressif de Vladimir Poutine. Hélène Carrère-Dancausse, vous avez
D'après toutes les informations, Poutine a une peur bleue de cette pandémie. Oui. Et il s'est isolé, ça c'est certain. Et d'ailleurs, sa rencontre avec le président Macron était spectaculaire. Bon, ça... Il y avait une mise en scène probablement destinée à impressionner le président Macron, mais en même temps, ça correspondait à quelque chose chez lui. Je voudrais ajouter quelque chose à ce propos. Il me semble qu'il y a, dans la décision de Poutine, nous n'en connaissons pas encore les éléments, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait s'appeler ce que Staline appelait le vertige du succès. C'est-à-dire que Poutine a avancé des pions depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années, et je dirais 2008 en Géorgie, où il a gelé véritablement une partie du territoire géorgien, 2014 en Crimée, et d'une certaine façon, quand Staline parlait du vertige du succès, il parlait de ce qu'avait été la collectivisation, il dit c'est sa propre politique qu'il critiquait tout en la rejetant sur les autres, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'à un moment donné, on perd un peu le contact de la réalité. Et je me demande si précisément il n'y a pas eu chez Poutine l'idée que jusqu'à présent ça a marché, donc allons-y. Parce que l'Ukraine c'est fondamental, enfin dans l'esprit des dirigeants russes, dans l'esprit des Russes d'ailleurs, mais dans l'esprit des dirigeants russes c'est fondamental. D'ailleurs à la fin de l'Union soviétique, Boris Eltsine, lorsqu'il a signé à Belovej l'acte de dissolution de l'Ukraine avec le président Kravchuk et le président Chouchkevitch, les deux autres présidents slaves, ils n'avaient qu'une seule obsession, c'était surtout ne pas se séparer de l'Ukraine, ne pas être coupé de l'Ukraine, garder avec elle les liens qu'ils considéraient sentimentaux, familiaux, éternellement.
Oui, éternellement. Bruno Tertrais, dans votre article, vous parlez vous dites que c'est pas forcément la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en fait qui a inquiété le Kremlin, que c'est vraiment la question de fond et la question des racines historiques et de la manière dont elles sont vues par la Russie. Et il est possible que Poutine ait vu une opportunité particulière en ce moment, peut-être après le retrait. C'est pas vous qui le dites, ça c'est moi qui l'ajoute. Peut-être après le retrait des Américains d'Afghanistan, ce retrait systématique comme ça de l'Amérique, de la scène internationale en Europe et en Asie a pu laisser penser à Poutine qu'il avait les mains libres pour aller trop loin en direction de l'histoire en quelque sorte, des racines historiques qu'il cherche.
Oui, tout à fait. Peut-être que de son point de vue, ce qu'on appelait à la période soviétique la corrélation des forces était favorable. Un tout petit mot avant de de revenir là-dessus. Un tout petit peu sur l'isolement de Vladimir Poutine. L'isolement à la fois politique et sanitaire. Je connais moins la société russe que vos deux autres invités. Mais ce que je sais, c'est que dans l'histoire, ça n'est jamais, jamais une bonne combinaison d'avoir un dirigeant de plus en plus isolé, paranoïaque, et qui écoute de moins en moins. C'est la recette pour la fuite en avant. Je ne vais pas le comparer à Saddam Hussein, mais si vous voulez, on a vu d'autres, parce que lui-même, d'ailleurs, M. Poutine semble faire référence à l'aventure irakienne de temps en temps, mais dans l'histoire, en tout cas, ça n'est jamais une bonne recette. Alors, pour en revenir à votre question, je dirais que de manière générale, c'est l'éloignement de l'Ukraine, le sentiment, la perception d'une Ukraine qui s'éloigne vers l'Ouest, l'Ouest étant l'OTAN, certes, bien sûr, je ne dirais pas que Vladimir Poutine se fiche de l'élargissement de l'OTAN, mais souvenons-nous tout de même que, il faut toujours le rappeler, 2014 Maïdan, ça n'est pas une question d'élargissement de l'OTAN, c'est une question de direction ukrainienne vers l'Union européenne. Ce ne sont pas des drapeaux de l'OTAN qui flottent sur Maïdan, ce sont des drapeaux de l'Union européenne. Et je crois que ce sentiment général d'un éloignement de cet État, qu'il a toujours considéré d'ailleurs comme quasiment illégitime dans son existence, à la fois vis-à-vis de l'UE, à la fois vis-à-vis de l'OTAN, et dans sa culture, y compris ses tentatives de se démocratiser, c'est tout ça qui est finalement insupportable pour Vladimir Poutine. Je crois que faire de la question de l'élargissement de l'OTAN la question centrale, je ne dis pas que ça ne joue pas, mais ça faire la question centrale, c'est quelque part jouer un petit peu le jeu de Poutine, justement.
Marlène Larvelle, dans l'article que vous avez écrit qui vient de sortir aux États-Unis, vous essayez de décoder le discours de Poutine, en particulier celui du 21 février. Vous dites que en fait les racines de la rhétorique sont effectivement historiques, que pendant longtemps le Kremlin a été capable de tenir l'équilibre entre les intérêts stratégiques pragmatiques de la Russie et ses constructions idéologiques inspirées par les conservateurs ou les nationalistes, et que cet équilibre serait maintenant rompu en faveur des nationalistes et des conservateurs, et que c'est la tendance à chercher une légitimation de l'action politique dans le temps long de l'histoire ou dans l'identité russe, on va voir que c'est pas forcément la même chose, qui est un des trois points qui guide Poutine.
Oui, je pense que les deux logiques se sont chevauchées pendant longtemps et pouvaient s'alimenter l'une et l'autre. La différence, c'est que la logique stratégique bénéficier d'un soutien plus large, je pense, au sein des élites russes et reposer sur aussi un sentiment de l'opinion publique en soutenant le régime dans son opposition stratégique à l'Occident, tandis que la logique historique anti-soviétique du discours du 21 février, c'est vraiment le produit d'une petite minorité au sein du Kremlin et c'est pas un discours qui résonne dans la société. Donc je pense que la logique stratégique, elle fonctionnait avec jusqu'à temps que le régime ait l'impression que l'Occident s'asseoirait pas à la table des négociations. Mmh. Et quand cette impression a été confirmée entre janvier et le 21 février, eh bien, c'est la logique du discours historique anti-soviétique et extrêmement impérialiste, disons, ou cette lecture impériale, non pas impérialiste, mais impériale de l'histoire russe qui s'est imposée et qui fait, évidemment, qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles du côté russe en termes de négociations.
Alors, vous dites que cette narration impériale est née dans les cercles conservateurs monarchistes et vous citez en particulier le mogul des médias, Constantin Malofiev. Vous pouvez expliquer une seconde de qui il s'agit ?
Oui, bien sûr, Constantin Malofiev est un des oligarques russes qui a fait fortune dans le milieu de la communication et dans les investissements financiers et qui a toujours été très très publiquement très orthodoxe, très monarchiste. Il a une fondation qui soutient énormément de projets religieux. Il a été l'un des grands financeurs de l'annexion de la Crimée et des républiques sécessionnistes. C'est aussi celui qui a été à l'origine de beaucoup de rencontres entre les extrêmes droites européennes et le Gotha aristocratique européen et la Russie. Et il semble, alors c'est la figure, disons, de proue la plus visible, mais il y a tout un monde, tout un écosystème autour de lui et autour d'autres personnalités qui prône une lecture de la Russie, dans sa longue durée impériale et dans sa comme si l'Empire était l'essence même de la Russie, et qui aussi ramène un discours extrêmement anti-soviétique, inspiré par l'émigration russe blanche de l'entre-deux-guerres, avec cette idée que les bolcheviks sont en fait des personnes russophobes qui ont créé les autres nations de l'Empire, et en particulier l'Ukraine, pour affaiblir la Russie. Et c'est ça qu'on a retrouvé dans le texte du 21 février, qui est paradoxal, parce qu'on a aussi cette image de Vladimir Poutine comme de quelqu'un qui regrette la disparition de l'Union soviétique, qui insiste autant que de manière très très importante sur la victoire de 1945, mais on a vu dans le discours du 21 février à quel point c'était un discours historiquement anti-soviétique, c'est-à-dire qu'il disait que l'Union soviétique a détruit ou a affaibli la nation russe en soutenant la création des autres nations, et y compris et avant tout de la nation ukrainienne.
Hélène Karyanko, sur ces cercles qu'on connaît mal en France, hein, eurasistes, monarchistes, qui voient la Russie comme une sorte de troisième Rome, et sur Constantin Malofiev, si vous le connaissez.
Je connais, mais si vous voulez, lui ne m'intéresse pas particulièrement, oui. Je suis... Désolé, c'est pas.
Oui, oui.
Je trouve que c'est un petit peu exotique. Je pense qu'en effet, il y a tout de même un lien à établir avec tout le mouvement eurasien qui a grandi dans l'émigration au lendemain de la Révolution. Au fond, la question qu'on s'est posée, que s'est posée l'émigration, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui explique cette affaire? Comment est-ce que le puissant empire russe a abouti à cette catastrophe? Mais je dirais qu'il y a toutes les tendances possibles. Il n'y a pas que... Il y a aussi une tendance profondément religieuse qui n'est pas exactement celle de Malofiev, qui d'une certaine façon aussi celle de Poutine. Poutine passe son temps à faire des retraites auprès de son père spirituel, etc. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'enracinement qui est extrêmement intéressante dans l'histoire russe. Et il me semble que Poutine a une vision un peu à étage de l'histoire. Il est parti de Pierre le Grand, la construction de la puissance russe, incontestablement. Et puis, il a évolué vers un regard sur le 19e siècle, et notamment, il s'est intéressé à ce que disait Solzhenitsyn, et il a tout de même écouté le discours de Solzhenitsyn pour qui la Russie avait souffert dans toute son histoire, de vouloir sans arrêt s'élargir au lieu véritablement de se moderniser. C'était, et pour Solzhenitsyn, le grand souverain du XIXe siècle, c'était Alexandre III, qui est pourtant très mal aimé. Et il est clair aussi, si vous voulez, que Poutine, qui a une vision historique un peu faible, il vient de le montrer dans son discours du 21 février, parce qu'au fond c'est un soviétique qui a été formé à l'idéologie soviétique, et qui, dans un certain désordre, découvre un nombre considérable d'idées, de tendances, d'approches historiques dans les 20 dernières années. Et on peut dire que ça fait dans son esprit un mélange assez étrange.
Je vais dire deux mots quand même sur Malofiev, parce que c'est une des personnalités qui a des antennes en Occident, et notamment en France, puisque effectivement il a collaboré, ou plutôt c'est Philippe de Villiers qui a collaboré avec lui pour construire dans des projets de parc à thème glorifiant l'histoire de la Russie à Moscou, à Yalta, et puis surtout on le connaît parce qu'en mai 2014 à Vienne au palais Liechtenstein, il a organisé des rencontres internationales intitulées les valeurs fondamentales de la civilisation chrétienne, où se sont croisés les leaders de pratiquement toute l'extrême droite européenne, dont en France Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est cette mouvance en quelque sorte qui naît, mais de manière complexe, c'est-à-dire que l'extrême droite européenne n'est pas forcément exactement l'équivalent des cercles russes eux-mêmes. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est un attachement à une certaine mythification de l'histoire européenne et des valeurs chrétiennes, Bruno Tertrais.
Oui, ce qui est assez troublant, c'est que par ailleurs, la pratique religieuse dans la société russe contemporaine aujourd'hui n'est pas en hausse, elle est plutôt en baisse. Hein. Et donc il y a, comme c'est souvent le cas, et pas seulement en Russie, une différence entre ce que souhaite projeter l'élite comme image à l'extérieur, et M. Poutine ne se prive pas depuis une dizaine d'années de projeter en Europe l'image d'une Russie conservatrice, détentrice, détentrices, qui seraient détentrices des véritables valeurs, entre guillemets, occidentales. C'est ça qui est assez frappant, c'est que derrière ce tableau dépeint par Poutine et quelques penseurs autour de lui, il y a une réalité tout de même assez différente dans la société russe.
Oui, oui. Marlène Arvel, vous dites que en fait d'efficacité sur l'opinion, les indications données par Google et autres montrent que après les discours de Poutine et depuis le début de la guerre, les principales recherches des Russes lambda, de la population russe sur Internet, concernent plutôt le taux d'échange rouble-dollar plutôt que des recherches sur l'histoire de l'Ukraine ou sur l'histoire du nazisme.
Oui, absolument. Alors, c'est toujours difficile de mesurer la réaction de l'opinion publique en russe en temps réel, parce qu'il faut toujours attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour avoir un certain nombre de sondages, en particulier ceux du centre Levada. Donc, un moyen d'avoir, disons, une idée de l'opinion publique, c'est de regarder ce que les gens cherchent sur Internet. Et en effet, depuis la semaine dernière, les principales recherches, elles sont essentiellement sur les questions économiques, sur ce que veut dire, sur l'état des sanctions, sur le cours du rouble. On a vu une petite hausse des recherches sur l'idée de l'histoire ukrainienne, donc il y a un certain écho, mais les deux autres thèmes des discours poutiniens, c'est-à-dire le supposé génocide des Russes en Ukraine, n'intéressent pas l'opinion publique russe qui ne croit pas, je pense, dans ce genre d'arguments. Et le thème de la dénazification de l'Ukraine, que Poutine a utilisé dans le discours du 24 justifiant l'intervention militaire, aussi semble tomber en partie à côté des intérêts centraux de l'opinion publique russe.
Leonard Cohen, le futur Bruno Tertrais, j'ai choisi cette chanson parce que vous la mettez en exergue de votre livre La revanche de l'histoire, comprendre le mur de Berlin, comprendre Staline et Saint-Paul, j'ai vu l'avenir, c'est le meurtre, comprendre le mur de Berlin, comprendre Staline et Saint-Paul, qu'on me donne le Christ ou qu'on me donne Hiroshima. Dans votre livre, vous mettez l'accent sur cette vague d'un retour d'une sorte de nostalgie de la grande histoire qui modèle les différents courants politiques, pas seulement ce qui se passe en Russie, mais on voit ça un peu partout, on voit ça depuis quelques années, aussi bien en Turquie, en Iran, aux États-Unis, en France bien sûr, notamment avec Éric Zemmour aujourd'hui. C'est ce que Pierre Asner appelait la revanche des passions, en tout cas un désir de passion.
Oui, c'est à la fois un contre-coup de la modernité, de la mondialisation, du progrès. Tout cela va vite, très vite, encore plus vite depuis 1990. Et je crois que c'est quelque part un nouveau cycle qui s'ouvre après ces 25-30 années de mondialisation effrénée, après cette poursuite du progrès technique que nous vivons déjà depuis un peu plus d'un siècle. Il y a un désir de passé, un désir de stabilité, un désir de conservation et parfois aussi un désir de revanche. L'histoire, c'est aussi la base d'une revanche. Ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est aussi la revanche d'une certaine Russie, en tout cas la revanche de Poutine. Et il est frappant de voir à quel point les puissances émergentes ou réémergentes, notamment les néo-impérialistes, que sont non seulement la Chine, la Russie, l'Iran, mais aussi d'autres. Vous savez, il y a des puissances moins impérialistes, mais qui ont un passé impérial tel que la Hongrie, où l'on voit justement cette instrumentalisation du passé de manière extrêmement forte. Le problème, c'est que vous avez trois niveaux, si vous voulez, dans cette utilisation de l'histoire. Toute nation a un récit national, mais le récit peut devenir un roman, c'est-à-dire prendre des libertés avec la réalité ou avec certains événements, et puis du roman, on peut glisser vers la réécriture, et c'est malheureusement ce qui se passe avec la Russie, mais aussi avec la République populaire de Chine, et également notamment la Turquie de M. Erdogan. Tout ceci est concomitant de l'émergence de leaders forts qui assoient leur puissance non seulement sur l'immédiat, mais aussi sur une réécriture du passé. Et en cela, ce qui s'est passé avec M. Poutine et sa réécriture du passé ancien de la Russie, du passé ancien de l'Ukraine, mais aussi du passé soviétique, puisqu'on voit que, pour faire simple, il critique la période Lénine pour mieux, non pas encenser, mais pour mieux s'inspirer en partie ou dire des bonnes choses sur Joseph Staline. C'est aussi une forme de réécriture de l'histoire qui a atteint son paroxysme avec les discours de M. Poutine de ces jours derniers.
Vous êtes d'accord avec ça, Hélène Karanenko? C'est-à-dire que la référence au passé est moins en Russie est moins la référence à un passé réel qu'à un passé mythifié, réécrit, romantisé, en fait?
Je dirais, il y a les deux. Il y a tout de même d'abord le sentiment que quelque chose a été raté. Et je voudrais dire une chose, c'est que je pense d'abord que nous ne réalisons pas que la transition en Russie n'est pas achevée. Nous considérons que la Russie, bon, elle est là où elle est. Or, en fait, c'est un pays en transition qui se cherche encore. Et ça explique d'ailleurs l'usage que l'on fait de l'histoire et le recours à l'histoire. Il faut s'appuyer sur quelque chose. Et je dirais que, par exemple, la passivité russe ou la curiosité avec laquelle les Russes ont observé la récupération de la Crimée indique bien ce souci de s'inscrire quelque part dans l'histoire, de savoir où on se trouve. Bon, il n'empêche tout de même une partie de la société soviétique est encore une partie qui a été éduquée sous le système soviétique, où l'histoire était toujours enseignée d'une façon idéologique et mythifiée, et on a une approche historique qui est faussée très largement pour une partie de la société, et pour l'autre, il y a la fantastique attraction de la mondialisation qui a conduit à considérer que seul le présent comptait, ou le présent et l'avenir. Il y a un divorce entre deux catégories de population en Russie, et ça aussi c'est important. Alors je voudrais ajouter tout de même que les approximations historiques de Poutine sont assez, s'agissant de l'Ukraine, sont extrêmement amusantes, parce que bon, il arrange Lénine qui a tout mal fait. Or il oublie une chose, c'est que les frontières des États nationaux et la politique nationale a été la politique définie par Lénine, mais que les frontières ont été créées, les États ont été créés par Lénine et Staline, qui se sont assis tous les deux devant des atlas démographiques et des cartes géographiques pour dessiner une carte de chaque entité nationale à laquelle on donnait une existence provisoire pour tuer le problème, pour tuer la nation et le sentiment national. Et ça a été fait d'une façon très, très savante par eux deux. Et ça aboutit d'ailleurs à des situations folles, et au conflit du Karabakh, etc. À tous ces conflits, on
a essayé... c'était des frontières arbitraires, en fait.
Absolument, ça a été fait comme ça avec l'Ukraine aussi. Enfin. Et il y a donc eu un désir, véritablement, de fixer un temps dévolu au sentiment national. Et ça, il peut raconter ce qu'il veut, Mais c'était tout à fait conscient chez Lénine, il ne s'est pas trompé, il savait ce qu'il voulait, il avait pris conscience de l'importance de la nation, c'est ça qui lui a permis de faire la révolution d'ailleurs, l'appel aux sentiments nationaux. Et à partir de là, il a pensé qu'il fallait endiguer ces sentiments nationaux qui ont explosé complètement à partir de 1918, et en Ukraine notamment, en Ukraine, en Géorgie, partout.
Oui, c'est-à-dire qu'il fallait, il fallait
endiguer et construire sur quelque chose.
Sur le socialisme.
On ne pouvait pas éradiquer toutes les nations tout de suite. Ouais. Les sentiments nationaux, on ne pouvait pas détruire tout le monde d'un coup.
Alors, un des éléments qui sont en toile de fond de la politique actuelle de Poutine, c'est évidemment aussi la violence. Vous le dites, Bruno Tertrais, hein, le maître du Kremlin, vous écrivez, réagit davantage comme un conjoint qui ne supporterait pas que sa femme l'ait quitté. C'est l'ex toxique qui veut la ramener à la maison par la violence. Il y a une culture au sein de la caste dirigeante russe issue de l'appareil de sécurité. Et François Stom a théorisé l'importance de l'héritage des gangs et des camps sur la culture sociale russe contemporaine. Marlène Larvelle, sur cette violence qui est en toile de fond. François Stom a publié dans Libération ce week-end un article assez au vitriol expliquant que Poutine règne en fait depuis 2000 par la violence. Il est arrivé au pouvoir par la violence à travers une succession d'attentats attribués aux Tchétchènes et qui n'a dirigé qu'à travers en fait la violence, la censure et les assassinats.
Oui, alors ça, c'est pas une vue que je partage.
Que vous partagez,
ouais. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Il y a une culture du gang et il y a une intrication entre les services de sécurité et le monde mafieux en Russie depuis la fin de la période soviétique au moins. Mais je pense que l'ascension de Poutine est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a une vraie lune de miel entre Poutine et son opinion publique tout au long des années 2000. Et ça, c'est pas la censure qui l'a faite. Je pense qu'il y a vraiment eu une vision du côté de la population de Poutine comme l'homme qui était capable de redresser le pays, et pas seulement le redresser sur la scène internationale, mais le redresser dans la vie quotidienne des Russes. Et évidemment, ça s'est accompagné dans les années 2000 par une transformation économique du quotidien des Russes absolument impressionnante. Donc je pense qu'il faut pas nier ça, parce que ça explique aussi la difficulté pour l'opinion publique russe aujourd'hui à prendre parti. Et on a vu il y a quelques tentatives de critiquer ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, mais c'est quand même très difficile pour la majorité de la population russe de se lever contre Poutine, parce qu'il y a tout cet héritage des 20 dernières années où Poutine a réellement transformé le pays pour le mieux pour la majorité des Russes. Alors maintenant, c'est la stagnation est là et les choses se détériorent aussi bien économiquement que dans la marge de manœuvre qui est donnée à la société civile. Mais pendant longtemps, Poutine a régné grâce à une popularité qui était réelle et qui était celle de la censure et de la violence.
Oui, il y a une carrière en cause, vous êtes dans le même sens.
Ah, je suis entièrement d'accord. Je voudrais tout de même rappeler que pendant les 10 premières années après la fin du communisme, la Russie avait vécu un véritable chaos. Un véritable chaos, les gens étaient ruinés, épouvantés parce qu'ils ne savaient pas vers quoi allait leur pays. Et quand Poutine est arrivé, il n'a pas pris le pouvoir par la violence. Eltsine l'a vraiment installé au pouvoir, enfin ça n'a pas été un complot. Hein. Et quand il est arrivé comme l'homme d'une remise en ordre interne. Il a rassuré la société. Et en même temps, en effet, il a voulu rendre à la Russie sa place dans le monde. Et il l'a montré dès le début. Il a montré qu'on ne pouvait pas considérer que la Russie n'existait pas. Ça n'a pas été facile. On peut dire que jusqu'en 2007-2008, il joue véritablement la carte de la main tendue au monde occidental. Bon, quand ça n'a plus marché, il s'est durci. Mais il a incarné la sortie du désordre et de l'anarchie aux yeux de la Russie.
Aux yeux de la Russie, oui. Bruno Tertrais, vous écrivez que le modèle de Poutine dont il a un portrait dans son bureau, c'est Nicolas Ier, apparemment, protecteur des minorités chrétiennes de l'Empire ottoman, pourfendeur de l'Occident décadent et créateur de la police d'État. Et donc c'est quand même une conception très, très autoritaire du pouvoir. Et bizarrement, ça se marie avec, on l'entend dans la rhétorique aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine, avec une sorte de positionnement presque victimaire. C'est-à-dire que quand on parle parle de quand Poutine parle de dénazification de l'Ukraine, il implique que finalement les Russes ne font que se défendre contre un complot ukrainien ou ourdi en Ukraine peut-être avec la complicité de puissances internationales, mais la Russie est présentée à la fois comme obéissant à un pouvoir autoritaire et se trouvant dans une position de victime.
Oui, tout à fait. Cette victimisation de la Russie, elle est, à mon avis, assise sur des perceptions sincères. Il y a aussi, alors on parle beaucoup de paranoïa, mais vous savez, la paranoïa, elle peut être sincère, et puis on peut inventer des complots, et puis finir par y croire. Et ça, c'est assez fréquent. Mais ce qui est frappant dans le cas de l'Ukraine, dans le discours de Vladimir Poutine, c'est que c'est parfois une création des bolcheviks, parfois une création, parfois un État... un État nazi littéralement, et parfois une création de l'Occident. Et à l'époque de Maïdan, en 2013-2014, il était frappant de voir à quel point la culture, le récit national de Vladimir Poutine, qui était déjà à l'époque très fondé sur la Grande Guerre patriotique de 1945, faisait ressortir, mettait en valeur énormément la participation de certains groupes néo-nazis ou d'extrême droite aux événements de 2014, grossissait énormément leur rôle, les mettait évidemment en cheville avec la CIA, et donc, si vous voulez, je crois que ça aboutit à une sorte de récit très étrange qui dans l'allocution du 21 février, d'ailleurs, m'a fait penser tout de suite à la démonisation que faisaient les Américains de l'Irak en 2002. Un régime autoritaire, quasiment nazi, qui développe des armes nucléaires. C'était frappant. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'était une tentative consciente de se mettre d'une certaine manière sur le même plan que les États-Unis. Je peux renverser un régime, donc je vais le faire, il est temps. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'exemple était très bien trouvé, mais en tout cas, dans ce discours, c'était tout à fait frappant.
Il y a une dernière question avant la fin de cette émission que j'aimerais aborder. En conclusion, ça va au-delà de la simple Russie, ça concerne la question de l'histoire. On dit toujours qu'on assiste à un retour de l'histoire aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a un paradoxe, parce que les gens qui se réclament de ce retour de l'histoire ont de l'histoire une vision souvent identitaire, c'est-à-dire une vision fixe. Il y a la Russie éternelle, il y a la France éternelle, il y a l'Amérique éternelle. C'est-à-dire que l'histoire pour eux, et peut-être bien pour Poutine aussi, c'est quelque chose d'inamovible qui doit résister au changement et non pas... c'est-à-dire que l'histoire n'est pas vue comme une succession de changements imprévisibles, mais comme quelque chose qu'il faut préserver de manière intemporelle, en l'occurrence le pays. Hélène Carrière-Dancausse, d'abord.
En fait, il y a une récupération de l'histoire. Je crois que c'est ça qui explique ce phénomène. Parce que nous avons vécu une période très étonnante, enfin depuis 30 ans à peu près. Je dirais que la chute du mur y a contribué. Elle a effacé quelque chose, elle a effacé un monde que nous connaissions. C'était un monde connaissable, prévisible, ce qui était très important parce que l'équilibre de la puissance nucléaire faisait, nous savions à peu près ce qui était possible et ce qui n'était pas. Tout cela s'effondre et on est entré dans le monde, alors ça s'est conjugué avec la révolution technologique du numérique, et on est entré dans le monde de l'immédiat. Et l'histoire a disparu, incontestablement, comme mode d'explication. On a considéré, d'ailleurs... La fin de l'histoire, c'était pas par hasard. Bon, c'était un thème tout à fait à la mode à un moment donné, exactement il y a 30 ans. La fin de l'histoire, ça voulait dire on entrait désormais dans le monde où on construisait quelque chose, mais le passé n'avait plus aucune espèce d'importance, il ne pesait plus sur les destins. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens y aient cru, mais néanmoins, ça a construit véritablement un univers où l'immédiateté, aidée aussi par les technologies modernes, l'a emporté sur le reste. Il y a un sentiment de frustration profonde tout d'un coup. Et il y a une génération d'ailleurs qui est montée. Il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène de génération. 30 ans ont passé comme ça. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une génération qui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce comme cela ?» Et du même coup, ça qui s'inquiète d'ailleurs de situations qui lui paraissent... On a expliqué aux jeunes générations qu'il n'y aurait plus de guerre, que tout allait... que le malheur n'appartenait plus aux destinées. D'ailleurs, les sociétés ont été secouées par une pandémie, même là. Il y a toujours eu des pandémies. C'était l'inimaginable. Et donc, il y a une réflexion, et ça contribue à pousser les sociétés à vouloir tout de même comprendre d'où elles viennent. C'est une réaction naturelle, enfin, c'est une révolte contre ce passé dont elles ont été privées. Il est normal qu'on n'ait pas dans des formes sophistiquées dans un premier temps, mais en même temps, l'intérêt pour l'histoire est fantastique. Enfin, moi, je suis très frappée de voir, il suffit quand on sort un livre, et mes collègues avec qui nous sommes en train de parler le savent, quand on sort un livre, on a un public extraordinaire qui pose des questions historiques.
Pour finir, Bruno Tertrais, est-ce que c'est vrai, c'est un enthousiasme pour l'histoire ou est-ce que c'est un enthousiasme pour le récit historique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec dans la question du roman national? Est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance de ce que c'est que la fiction? Finalement, un roman, il faut prendre la mémoire historique. La mémoire historique est quelque chose de différent de l'histoire en tant que telle, non?
Bien sûr. En fait, quelque part, l'histoire, c'est le contraire du passé. Le passé est censé être fixe, alors que l'histoire est une réécriture constante au sens de la découverte, de la recherche scientifique, alors que le passé tel qu'il est vu par les acteurs dont on a parlé depuis cette émission, c'est plutôt un passé, c'est une image, ce qu'on appelait l'image d'Épinal, censé être fixe, d'où la distinction que je faisais tout à l'heure entre le récit dont toutes les nations ont besoin, le roman qui commence à poser problème parce que des événements sont oubliés ou au contraire mis en exergue à l'excès, et la réécriture de l'histoire qui est malheureusement cette phase que connaissent des États autoritaires tels que la Russie et la Chine. Une toute dernière remarque, il y a eu un deuxième récit à la fin de la guerre froide, il y a eu effectivement le récit de la fin de l'histoire, il y a aussi le récit de la sortie de l'histoire qui était un récit européen. Les Européens, en tout cas dans la culture européenne, cette idée que nous pouvions mettre de côté notre passé et être les pionniers de cette société moderne qui ne connaîtrait plus les grands conflits basés justement sur les haines historiques, c'était une idée très forte pendant très longtemps en Europe. Je crois que même si on a eu des petites piqûres de rappel depuis 1990, même des grosses, je crois que c'est vraiment maintenant, et la réaction allemande d'ailleurs, ces jours derniers en témoignent d'ailleurs, montre qu'on est quand même, là je crois qu'on a compris qu'il fallait passer à autre chose.
Merci beaucoup. Merci Hélène Carrère-Dancos, Marlène Laruelle et Bruno Tertrais. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Betzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Dali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.